Bonjour à tous, bienvenue, bon appétit, les midi et demi.
Europe Midi Week-end.
Thierry Dagiral.
30 minutes d'information jusqu'à 13h et plusieurs dossiers que l'on va développer ensemble en ce dimanche 16 janvier. Jeu, 7 et match. Djokovic a perdu, le numéro 1 mondial de tennis, est expulsé d'Australie. Il est actuellement à l'aéroport, prêt à partir. Il ne jouera pas l'Open qui débute demain. Explication et réaction dès le début de ce journal. Cédric Pioline est mon invité dans un instant. Macron suspendu à Omicron, c'est le titre du JDD ce matin. Le président bientôt candidat, mais quand ? Tout dépend de la situation sanitaire. Son ami et chef d'entreprise Jean-Marc Borello nous rejoindra. C'est encore un gros dimanche politique avec le meeting un peu spécial de Jean-Luc Mélenchon. C'est à 14h à Nantes, nous serons en coulisses. Et puis demain, retour à l'école, plus de postes, plus de masques FFP2, annoncé par le ministre de l'Éducation nationale. Les profs s'impatientent, Sophie Vénétité du SNES FSU, invitée également d'Europe Midi Week-end. Mais d'abord, voyons la tendance météo avec vous, Valérie Darmon.
Eh bien Thierry, du nord de la Bretagne aux côtes de la Manche jusqu'en région parisienne, quelques gouttes qui tombent, tandis que le soleil qui brille généreusement sur la moitié sud avec des maximales tout aussi contrastées, entre 2 à Bourg-en-Bresse et 13 degrés à Montpellier.
Météo complète bien sûr juste avant 13h. L'Open d'Australie débute donc demain. C'est le premier tournoi de l'année du Grand Chelem et il se jouera sans le numéro 1 mondial de tennis. C'est l'information de ce dimanche midi. Novak Djokovic est donc expulsé d'Australie. Il est actuellement à l'aéroport, là, prêt à partir. Il a perdu devant les tribunaux, Axel May.
Oui, Novak Djokovic expulsé parce qu'il n'était pas vacciné et que sa dérogation n'a pas été jugée valable. Je vous la fais en très courte. La Cour fédérale a tout à l'heure définitivement rejeté son recours, décision prise à l'unanimité des trois juges.
La Cour fédérale a décidé de rejeter le recours intenté contre l'annulation du visa de Novak Djokovic. Elle rejette également le recours contre son expulsion du pays.
Voilà, alors on va guetter évidemment l'image de Djokovic entrant dans l'avion qu'il expulse de Melbourne. Auparavant, il y avait eu ces images dans une voiture quand il quittait le centre de rétention administrative où il était revenu la nuit dernière. Derrière son masque, on voyait ses yeux, son regard noir, les photographes qui étaient agglutinés autour de la voiture. L'ITF, la Fédération Internationale de Tennis, et l'ATP prennent acte de la décision. Quant à l'Open d'Australie, il va commencer effectivement demain, et le numéro 1 mondial, non seulement ne pourra pas défendre son titre, mais en plus, il pourrait perdre son rang de numéro 1 si jamais, par exemple, Medvedev, le russe, le numéro 2, remportait le tournoi.
Axel May du service des sports d'Europe 1, merci beaucoup Axel. Communiqué bien sûr de Novak Djokovic qui se dit bien sûr extrêmement déçu. Écoutez également la réaction de ses supporters à Melbourne.
Ce n'est pas ça une démocratie, n'est-ce pas ? Un type arrive, prend une décision, après que les tribunaux aient statué, un ministre décide de passer outre et au final c'est une seule personne qui a le dernier mot.
C'est désastreux, désastreux. D'autant plus qu'il a été invité ici. Apparemment, tous les documents ont été transmis, ont été enregistrés. C'est un vrai cirque cette histoire.
Voilà pour les réactions des supporters à Melbourne. Ce qu'on va garder de ce feuilleton, c'est qu'il a très vraisemblablement menti aux autorités, menti au monde entier, Wilfried De Villers.
Oui, la défense de Novak Djokovic s'est effritée au fil des révélations sur ses mensonges ou ses oublis, comme il les appelle. Il y a d'abord cette histoire de formulaire d'entrée en Australie sur lequel le tennisman aurait affirmé ne pas avoir voyagé dans les 14 derniers jours et donc d'être resté en Serbie avant son arrivée en Australie, sauf qu'il a passé le nouvel an dans le sud de l'Espagne, grillé par une vidéo diffusée sur Twitter. Autre élément, peut-être encore bien plus compromettant, l'enquête de Der Spiegel sur la date de son test positif au Covid. Selon le journal allemand, ce test aurait eu lieu le 26 décembre et non le 16, comme l'affirme Novak Djokovic. Et puis il y a ces questionnements concernant son respect des règles d'isolement. S'il a bien effectué son test le 16 décembre, alors pourquoi le voit-on participer dès le lendemain à deux événements publics en intérieur à Belgrade, le tout sans porter de masque. Deux jours plus tard, le 18 décembre, Novak Djokovic participe également à une interview avec deux journalistes journalistes de l'équipe. Autant d'éléments accablants contre le numéro 1 mondial qui se voit donc privé de l'Open d'Australie.
Wilfried de Villers, alors Cédric Pelline devait être avec nous, mais nous n'arrivons pas à le joindre. Axel May, merci d'être resté avec nous. C'est bien sûr, vous l'avez dit déjà, c'est un coup dur pour le numéro 1 mondial, coup dur sportif, coup dur également en termes d'image, également pour les sponsors.
Oui, parce que déjà, son image, il a toujours eu le sentiment, sans doute à raison, d'être le mal-aimé du tennis par rapport aux stars que sont les autres stars, Federer et Nadal. On le rappelle, les trois ont chacun 20 titres du Grand Chelem. Lors du dernier US Open qu'il avait perdu, le public l'avait, vous savez, c'est le public qui soutient le perdant, le public l'avait soutenu, il avait remercié le public pour son amour, et on s'était dit lui-même, ça y est, j'ai enfin cet amour du public. Là, tout va partir évidemment en éclats. Les sponsors, sans doute, vont se poser des questions. Est-ce qu'on peut continuer à soutenir Djokovic? Surtout qu'en Australie, il risque 3 ans de la part des autorités, 3 ans sans pouvoir revenir, ce qui veut dire évidemment ne pas pouvoir avoir un nouveau titre là-bas.
Dernier point, Axel May, j'imagine que cette nouvelle fait du bien, on l'imagine aller à son rival, Rafael Nadal.
Alors, sur le ton de l'humour, Rafael Nadal avait expliqué quand la procédure était en cours, à titre personnel, j'aimerais évidemment qu'il ne soit pas là, même si sportivement, oui, il faut qu'il soit là, le numéro 1 mondial. Donc oui, je vous parlais tout à l'heure de Medvedev, le russe, vainqueur de l'US Open en septembre dernier, qui fait partie des favoris, mais Nadal, il aime bien l'Australie aussi, et effectivement, si jamais il venait à s'imposer, il y aurait une nouvelle polémique en disant bah voilà, il a gagné Nadal son 21e titre du Grand Chelem, alors que Djokovic n'était pas là.
Axel May du service des sports d'Europe, un grand merci Axel. Un mot de football avec Marseille-Lille en clôture de la 21e journée à suivre ce soir sur Europe 1. Hier, le PSG a battu Brest 2-0.
Europe Midi Week-end. Thierry Dagiral.
Demain, l'école reprend, mais dans quelle ambiance? 4 jours après la grande grève des enseignants, la semaine dernière, il y avait 14 500 classes fermées, des enseignants qui ne se sentent pas dans une école sécurisée et qui demandent notamment des capteurs de CO2. Tous les spécialistes le disent, c'est un instrument utile pour éviter la propagation du virus. Mélina Fachin nous emmène dans une classe dans le sud de l'Alsace.
On entoure ici le petit mot.
Dans cette classe de CE1, les 20 élèves ont bien compris l'intérêt du capteur de CO2, le petit boîtier installé à côté du tableau.
Pour pas attraper le Covid et s'échanger les microbes.
Ça sonne, ça veut dire qu'il faut aérer les fenêtres.
Et justement, au bout de 3 quarts d'heure de cours, le capteur dépasse les 1500 ppm parties par million, le seuil d'alerte. Pour Isabelle Luga, la maîtresse, garder un œil sur le boîtier est devenu une habitude.
C'est en même temps rassurant, en même temps un petit peu angoissant effectivement de voir monter le taux de CE2. C'est vrai qu'ils sont habitués, ils savent que je le mets en route le matin et qu'il va être en route toute la journée.
La commune d'Ilfurt a été l'une des premières en France à se doter d'un capteur CO2 il y a presque un an, le maire Christian Sutter.
Les enfants sont quand même plus en sécurité dans les locaux. Ça peut leur donner de bonnes habitudes à la maison bien entendu aussi. Aérer toutes les heures pendant au moins 5 à 10 minutes, donc je crois que c'est très positif quand même.
En tout, 64 communes et 150 salles de classe dans le sud de l'Alsace sont déjà équipées en capteurs CO2 pour un budget total de 15 000 euros. Ilfurt, Mélina Fachin, Europe 1.
Et bonjour Sophie Vénétité.
Bonjour.
Vous êtes prof de sciences éco, comme on disait de mon temps, dans l'Essonne, secrétaire générale du syndicat SNES-FSU. Votre ministre Blanquer a promis l'embauche de contractuels et la livraison de masques FFP2. Tout est réglé donc?
Alors, tout est loin d'être réglé. On a bien senti qu'il y avait un changement de ton jeudi soir. On a vu aussi que c'était Jean Castex qui avait piloté la réunion et non Jean-Michel Blanquer. Donc, on sent que les choses bougent et que la porte s'est entrouverte. Mais il faut maintenant qu'elle s'ouvre en grand sur la question des conditions sanitaires dans lesquelles nous allons travailler dans les prochaines semaines. Et puis qu'on avance aussi sur d'autres dossiers pédagogiques comme la question du baccalauréat.
Vous reprenez demain dans quel état d'esprit?
On sent que les choses ont bougé, que enfin on a parlé de l'éducation nationale, qu'enfin on a parlé des conditions sanitaires dans lesquelles on travaille. Mais si tout le monde a bien pris conscience qu'il y avait un sujet éducation nationale, qu'il y avait peut-être même un sujet Blanquer, il faut aller plus loin et il faut arriver à pouvoir travailler dans un environnement sécurisé pour les élèves et pour les adultes.
Il y a eu la grande manifestation donc de jeudi dernier. Vous pourriez appeler à une nouvelle journée d'action?
Alors, nous appelons avec d'autres organisations syndicales à une nouvelle journée d'action jeudi prochain, qui peut prendre différentes formes, la forme d'une grève, la forme d'un rassemblement. C'est des modalités qui vont être discutées, mais il va de soi que, vu les réponses qui ont été apportées, qui ne sont qu'un début, que la porte s'est entrouverte et qu'il faut maintenant l'ouvrir en grand, nous allons continuer l'action.
Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNUS FSU ce midi sur Europe 1. Merci à vous, madame.
Merci.
Notez que c'est à 16h que débutera la lecture définitive du texte sur le pass vaccinal à l'Assemblée, pass qui pourrait entrer en vigueur dès la semaine prochaine. Pour les professionnels de la restauration, il est hors de question de procéder au contrôle d'identité des clients ou des salariés d'ailleurs. Écoutez Franck Delvaux, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie-restauration d'Île-de-France.
Nous, on est tout à fait contre le fait de devoir contrôler les pièces d'identité. Ça va créer des tensions. Il y a tout un tas de nos clients qui sont contre. Et ça peut créer des tensions à l'entrée des établissements ou une fois dans les établissements. Et puis, une fois de plus, ce n'est pas notre métier. Nous, on n'est pas formés pour ça. Je veux dire, je pense qu'un policier, un gendarme est formé. On ne devient pas policier ou gendarme du jour au lendemain. Et il y a une formation. Et dans la formation, il y a le fait de savoir comment demander une pièce d'identité et pourquoi et comment. Bien aujourd'hui, nous, ce n'est pas notre métier. Nous, on a une formation pour faire cuire le bœuf bourguignon, pour le préparer, pas pour contrôler les pièces d'identité. Donc, on ne peut pas être la variable d'ajustement de ce gouvernement depuis mars 2020 et depuis le Covid, c'est pas possible.
Voilà le président de l'UMI Île-de-France interrogé par Océane Théard. Dans un instant, Emmanuel Macron, bientôt candidat, mais quand son ami, le chef d'entreprise Jean-Marc Borrello, sera avec nous. Et puis, l'étrange meeting de M. Mélenchon cet après-midi à Nantes. On vous emmène en coulisses. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi Weekend. Thierry Dagiral.
Bientôt une heure moins le quart, la suite de votre édition de la mi-journée sur Europe 1. Le pic des contaminations est proche et cela, c'est une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron. En effet, l'entourage du président regarde avec attention ces chiffres. Le président va devenir candidat, mais quand ? Cela dépend bien sûr de l'évolution de l'épidémie, Jacques Seret.
Oui, clairement, c'est Omicron qui fixe le calendrier d'Emmanuel Macron. Mais en coulisses, on s'affaire déjà, car selon nos informations, le gouvernement espère une sortie de crise d'ici 15 jours à 3 semaines. C'est pourquoi plusieurs proches du chef de l'État nous ont confié que consigne leur a été donnée de se tenir prêt. Prêt pour se lancer dans la bataille de 2022 à tout moment, dès qu'Emmanuel Macron jugera le moment opportun. Et d'après nos confrères du Journal du Dimanche, deux options sont sur la table des stratèges de la Macronie pour la mise en orbite du candidat Macron. La première, une déclaration de candidature à la fin du mois de janvier, dès l'apparition d'une décrue des entrées à l'hôpital. La seconde option, une déclaration un peu plus tard, vers la mi-février, pour une campagne encore plus express. Fin janvier ou mi-février, voilà donc à ce stade la fenêtre de tir du locataire de l'Élysée.
Jacques Seret du service politique d'Europe 1. Bonjour Jean-Marc Borrello.
Bonjour.
Vous êtes chef d'entreprise, ami du président Macron et délégué général adjoint de La République En Marche. Une candidature soumise à Omicron, vous souhaitez qu'il soit candidat Emmanuel Macron et quand ?
Évidemment, au moment où le président de la République le décidera, c'est-à-dire quand il pourra être candidat compte tenu de ce qu'il a aujourd'hui à faire en qualité de président de la République.
On le voit dans les études d'opinion d'IFOP publiées ce matin dans le JDD, il y a un fléchissement de la confiance pour l'exécutif dans la gestion de cette crise. Cela vous inquiète ou pas ?
Bon, je crois qu'il ne faut pas suivre l'actualité au jour le jour. Ce qui est important, c'est de faire face à la crise sanitaire, la crise économique, faire face à l'engagement majeur qui est la présidence du Parlement européen. Et puis le temps viendra de faire campagne.
Mais clairement, ce midi, vous appelez à une candidature Emmanuel Macron.
Ah, j'appelle depuis longtemps à une candidature Emmanuel Macron, parce que pour réformer ce pays, 5 ans ne suffisent pas et il vaut mieux 10 ans.
Jean-Marc Borrello, certains candidats comme Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon peinent en ce moment à obtenir leur signature pour pouvoir se présenter. Voilà ce que disait David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. Il était ce matin l'invité du Grand Rendez-vous sur Europe 1.
Je pense que cette règle n'est plus adaptée. Je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai proposé plusieurs solutions. Je souhaite ardemment qu'ils trouvent tous leur parrainage. Mais objectivement, ce serait malhonnête que de dire que l'Association des maires de France va trouver des parrains. Elle n'est pas là pour servir les intérêts de tel ou tel. Beaucoup de maires nous disent « si j'apporte un parrainage, je suis marqué à vie pour un candidat alors que je suis apolitique ». Donc maintenant, si vraiment il y a crise, les représentants du Parlement changent les règles et l'AMF s'adaptera et les maires feront ce qu'ils ont toujours fait, leur devoir. Mais en l'occurrence, c'est faire peser une responsabilité de choix qui n'est pas celle de l'AMF.
David Lisnard ce matin sur Europe 1. Jean-Marc Borrello, il faut, selon vous, revoir la règle des parrainages ?
S'il faut un jour revoir la règle des parrainages, c'est sûrement pas lorsque la partie est lancée. D'abord, les petits candidats ont toujours obtenu leur parrainage, donc l'idée de l'idée de semer le trouble quelques mois avant n'est pas tout à fait nouvelle. Et enfin, s'il faut adapter la règle, on verra ça lorsque le match sera terminé.
Jean-Marc Borello, vous êtes le président fondateur du groupe SOS. C'est 22 000 salariés dans le monde. Vous gérez les hôpitaux, vous gérez des maisons de retraite. Vous prenez cette économie sociale et solidaire. Six prochains quinquennats, il y a pour Emmanuel Macron, pour votre ami. Il faudra qu'il soit plus social, plus solidaire.
Je crois que paradoxalement, nous avons été pendant ces cinq dernières années sociaux et solidaires. Et que ça ne s'est pas suffisamment vu, il faudra sans doute le mettre plus en évidence, mais évidemment que l'économie sociale et solidaire est une économie.
Pardonnez-moi, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu des épisodes comme celui-ci, ça veut dire que ça manquait visiblement.
Les gilets jaunes, c'est le résultat de 20 ans d'aveuglement sur la précarisation d'un certain nombre de territoires dans notre pays. Depuis, nous avons pris des mesures, objectivement, et effectivement, et nous devrons encore accentuer les mesures de solidarité envers les plus fragiles, envers les territoires.
Exemple.
Et envers toutes celles et ceux qui en ont besoin.
Qu'est-ce que vous chuchotez à l'oreille de votre ami président ?
Alors, je ne chuchote rien, je dis les mêmes choses et je les écris très régulièrement. Je considère que l'économie sociale et solidaire, c'est à la fois la capacité de réussir et à la fois de partager équitablement le fruit de la réussite. C'est pour ça que le groupe SOS aujourd'hui n'a pas d'actionnaires, pas de dividendes à verser, mais que chaque année, 2 millions de personnes dans ce pays bénéficient de ces prestations.
Et vous publiez un livre justement pour expliquer votre démarche « Mon bonheur, c'est les autres ». C'est aux éditions Débat Public, livre qui est sorti cette semaine. Merci à vous Jean-Marc Borello.
Je vous en prie.
Merci à vous. La politique encore avec un meeting, gros meeting à 14h cet après-midi. Celui de Jean-Luc Mélenchon à Nantes, 3000 spectateurs dans un grand cube autour de des images, des sons et même des odeurs. Reportage en coulisses signé Charles Guyard.
Nous avons toujours voulu utiliser les nouvelles technologies pour mieux diffuser nos idées.
Et la diffusion, pour le coup, sera totale auditive, forcément, mais avec un son, attention, spatialisé, visuel aussi, avec des images projetées sur les quatre grands murs entourant le public et surtout olfactive avec des odeurs. Une innovation qui fait la fierté de Bastien Lachaud. Il est député de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis et responsable des événements de campagne de Jean-Luc Mélenchon.
C'est vrai que le parfum en politique, c'est inhabituel.
Et tout dépend de quelles odeurs on parle, hein, dans un milieu où les boules puantes sont légion. Ici, pas question de se boucher le nez. Au contraire, même malgré le masque, les 3000 spectateurs pourront humer deux essences pour voyager dans les thématiques de l'espace et de la mer abordées dans les discours. Une vraie prouesse.
C'est assez compliqué de diffuser le parfum. Et ensuite, il faut attendre que le parfum s'évacue pour pouvoir en injecter un nouveau. C'est aussi une performance technologique de gérer une diffusion de parfum sur une telle superficie.
Et d'ailleurs, ça sent quoi une campagne de Mélenchon ? Pour Paul, jeune militant, c'est une évidence.
Ça sent bon, on va gagner.
Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Voilà, autre meeting politique cette fois-ci aux États-Unis, celui de Donald Trump en Arizona. C'était hier soir son premier meeting de 2022. Une année importante avec des élections de mi-mandat qui se profilent et sur lesquelles l'ancien président espère bien peser. Un meeting hier soir pour remobiliser ses fidèles. Reportage signé Aviva Fried.
Dieu bénisse Donald Trump et l'Amérique. À Florence, en Arizona, les fans de Donald Trump sont au rendez-vous pour le premier meeting de l'année de leur héros. Des inconditionnels de l'ancien président comme Dennis Hand, qui campe ici depuis une journée pour être sûr d'être au premier rang.
Vous avez déjà vu un président que les gens aimaient autant ? Non, pas de toute ma vie et j'ai 68 ans. Je suis une pure fan de Trump.
D'habitude, c'est un festival de country music qui se déroule ici. Aujourd'hui, des centaines de drapeaux à l'image ou au nom de Trump flottent sur les lieux. Des casquettes et des autocollants insultent également Joe Biden, accusé par tous d'avoir volé l'élection. C'est en tout cas ce que pense Amanda, membre du groupe Les Femmes pour Trump.
Je crois vraiment que Trump a gagné. Il y a eu beaucoup de mensonges et d'arnaques et ils ont fait ce qu'il fallait pour ne pas se faire prendre.
Après des heures d'attente, Donald Trump fait son entrée à la tribune devant des milliers de supporters en extase. Et dans un numéro désormais bien rodé, l'ancien président multiplie critiques et attaques.
On a eu une extraordinaire victoire en Arizona qu'on nous a volée. L'année dernière, on a eu une élection truquée, il y a des tas de preuves. Mais les médias de fake news, les médias pourris refusent d'en parler.
Ce Trump est un succès auprès de ses partisans, toujours persuadés que leur idole reviendra un jour au pouvoir. En Arizona, Aviva Fried, Europe 1.
Voilà, 1h10 passée. Allez, une idée de sortie pour terminer. C'est à Enghien-les-Bains, c'est près de Paris. L'exposition Interstellaire, elle regroupe tous les films de science-fiction sur l'espace grâce à des pièces récupérées sur les tournages des films. Vous serez donc dans les coulisses de Men in Black, d'Apollo 13 ou encore d'Alien. Visite guidée avec Marie Jiquel.
Bienvenue à bord de la navette Orion de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui en réalité fait une cinquantaine de centimètres. Cette maquette, créée avec la NASA, a servi au film de Kubrick, sorti en 1968, et a été sauvée par des collectionneurs. Julien Dumont est le directeur du musée du cinéma de Lyon.
La particularité du cinéma, c'est que c'est entre guillemets fabriqué que pour une scène, et après c'est censé être détruit. Donc c'est pas des matériaux qui sont pérennes dans le temps, donc on a vraiment mis au point, nous, en interne, des techniques particulières de préservation.
Le crâne visqueux de la bête d'Alien, la figurine d'un des martiens de Mars Attacks ou encore le costume troublant de Rencontre du troisième type. L'événement raconte l'évolution des effets visuels et pour Alexandre Poncet, le co-commissaire de l'exposition, un film a révolutionné le cinéma.
Après Jurassic Park, on voulait absolument des effets spéciaux parfaits. Tous les studios ont voulu leur Jurassic Park, ont voulu des films utilisant les effets spéciaux par ordinateur.
Surprise de l'événement, la reproduction d'un cockpit de vaisseau spatial pour piloter en vitesse lumière sous l'égide de la combinaison arborée par un certain Buzz Aldrin.
Voilà, c'est jusqu'au 8 avril prochain. Marie Jiquel du service Société d'Europe 1. À 14h, la Voix est livre. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Thierry.
Nicolas, comme chaque dimanche, vous nous proposez un livre à lire ce week-end. Plutôt deux livres cette semaine, mais ils sont liés.
Absolument. Le premier, c'est Portrait du baron d'Andrax de Bernard Quirini. Chez Rivage, Bernard Quirini est belge. Un peu critique littéraire et beaucoup écrivain. Il a publié des nouvelles, des romans. Ils sont souvent drôles, toujours très bien écrits, avec un style particulier et surtout, des idées inédites.
Et là, c'est une biographie.
C'est un récit d'histoire de Bernard. Le narrateur, c'est lui, c'est Bernard Quirini. Un jour, il achète une toile du peintre Henri Mouquin d'Andrax, mort en 1960. Il l'a trouvée par hasard dans une brocante, mais la peinture l'intrigue. Alors il commence à s'intéresser à la vie du peintre. Mais rien, personne n'a jamais publié de biographie. Sauf qu'il apprend qu'il y a un musée dans l'Allier qui expose quelques-unes de ses œuvres. À Andrax, justement, un village de 1500 habitants. Il y va et ça lui plaît. Il traîne dans le musée. Il y a effectivement quelques toiles d'Andrax et il sympathise avec le gardien qui lui apprend que le petit-neveu du baron habite toujours le manoir familial et que le musée cherche un gardien. Alors il prend le poste et il rencontre le petit-neveu, le baron Archibald d'Andrax. Sacré personnage. D'abord, par exemple, c'est un collectionneur de ruines, de maisons en ruines. Des maisons qu'il garde en l'état sans changer ni la décoration ni rien. Donc il y a encore de vieux napperons, de vieilles vaisselles, des produits ménagers d'époque, etc. Pour voyager dans le temps, lui explique-t-il. Il a l'air de sortir d'un conte, ce type. Très grand, il ressemble à un ogre, des cheveux ébouriffés, puis une canne à pommeau d'argent, une sorte de mélange entre Dali et la bête de La Belle et la Bête. Ouais. Et donc, il a plein de lubies. Il reconstitue les batailles napoléoniennes avec des petits soldats. Dans son château, il a fait installer une pièce à sensation tactile. C'est-à-dire, c'est une pièce aveugle, sans lumière ni fenêtre. Et à l'intérieur, on peut toucher des choses étranges pour des sensations inédites. Mais il n'y a pas que ça. Il organise aussi des soirées de sosie. C'est un fou de train électrique. D'accord. Il fabrique des guillotines jouets avec ses enfants.
Bon, mais le deuxième livre dans tout ça, alors.
Eh bien, justement, c'est un livre que Bernard Quirini a découvert après la mort du baron en 2016. Rivage l'édite sous le titre « Carnet secret ». C'est un recueil de pensées et d'aphorismes.
Ça, ce sont donc les carnets du baron et le livre de Bernard Quirini, « Portrait du baron d'Andrax ». C'est chez Rivage, son incroyable vie.
Incroyable, c'est le mot tellement incroyable qu'on peut se demander s'il existe vraiment, ce baron. Ça, je vous laisse voir.
Votre invité dans une heure, Nicolas.
C'est Raphaël Antoven pour son roman « Krasnaya », qui est une transposition de « La ferme des animaux », mais aujourd'hui.
À tout à l'heure, merci beaucoup Nicolas. Il nous reste à voir le temps, Valérie Darmon, avec un ciel gris et bleu.
Effectivement, le ciel qui reste gris toute la journée de l'estuaire de la Gironde au plateau Lorrain, avec quelques gouttes possibles sur la partie la plus au nord. La grisaille qui est tout aussi tenace dans le Val de Saône, mais des éclaircies qui parviennent à se développer en région lyonnaise. Et à partir justement de Lyon jusque sur le golfe de Gascogne et la Méditerranée, pas d'inquiétude, vous restez au soleil jusqu'à ce soir. Les températures sont légèrement sous les normales de saison, avec des maximales qui ne dépassent pas 1 à 5 dans le nord-est, comprises entre 5 et 10 ailleurs et jusqu'à 12 sur la côte atlantique, 11 à 16 en bord de Méditerranée et par exemple annoncé à vos thermomètres par Météo France, 3 à Lyon et à Strasbourg, 6 degrés à Grenoble, à Alençon, à Montauban et à Clermont-Ferrand, 7 seulement en région parisienne sous la grisaille, 9 à Carcassonne et Biarritz, 11 degrés à Embrun, Tarbes et Avignon, 13 degrés à Saint-Brieuc, Nîmes et Montpellier, et enfin la maximale des maximales, 15 à Ajaccio.
Merci Valérie Darmon. Dans un instant, Isabelle Morizet reçoit le journaliste et écrivain Éric Neuhoff. Toutes les dernières informations, c'est dans un instant sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Midi Weekend, midi 30, 13h. Thierry Dagiral.